que Radio Capéuné le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
En RDC, de plus en plus d'opérateurs privés s'impliquent dans l'implantation de sites agro-industriels et d'après les agronomes, ces domaines fournissent de la nourriture aux populations, procurent de l'emploi dans les milieux ruraux. Donc, avec le professeur Mutambwe Shango, qui est notre invité et qui est expert en spécialiste en développement, on va découvrir l'importance de ces sites agro-industriels et nous rappelons le numéro de contact appelé au 081 890 6394 ou bien faites un SMS au 081 711 50 01. Professeur, ça fait un bon bout de temps qu'on vous a pu retrouver sur nos antennes. Merci d'être là. Vous êtes en forme?
Très en forme. Mais peut-être parce que ce qui est rare et cher, est-ce que c'est pour ça que vous ne me voyez pas? Bon, je ne sais pas, mais je suis toujours là.
C'est bien, professeur. On va parler de site agro-industriel. Qu'est-ce qu'on doit d'abord comprendre par site agro-industriel?
Les mots sont simples.
Oui.
C'est un site où on tient à développer toutes les activités agricoles visant donc, du moins pour ici chez nous, à améliorer la production agricole afin de lutter contre cette insécurité alimentaire qui se vit tous les jours. Je dis bien qui se vit tous les jours à travers le pays qui n'a pas droit à mener cette vie. Lorsqu'on sait, selon le rapport de la FAO, que si on exploitait nos différentes ressources agricoles, on serait capable de nourrir 2,9 milliards de personnes au monde. Donc le site, ce n'est qu'une récupération de l'exploitation agricole en veilleuse dans notre pays.
Et on dit que ces sites, vous l'avez également confirmé, fournissent de la nourriture aux populations, procurent de l'emploi dans les milieux ruraux. Alors comment doit-on s'y prendre pour pouvoir étendre ces cycles agro-industriels?
Mais vous savez, je me rappelle de l'histoire du président Mobutu qui disait que Kinshasa n'était pas le Zaïre. Je crois que si le gouvernement actuel fait un effort pour étendre ces sites, c'est justement pour dire aux Congolais qu'il n'y a pas qu'à Kinshasa où les gens ont droit de vivre. Partout où on est, on doit se sentir heureux et Congolais, n'est-ce pas? Il n'y a pas de moins Congolais et de plus Congolais que les autres. Si vous allez par exemple à Paris ou en France, si vous voulez, mais il ne faut pas nécessairement être à Paris pour pouvoir trouver de grandes surfaces. Vous avez des grandes surfaces un peu partout. Donc, quelqu'un qui est à Nice, par exemple, n'a pas envié quelqu'un qui est à Paris parce que à Paris, il y a, c'est pas Euromarché ou pas à Paris parce qu'il y a des bureaux et tout. Tout se trouve à Nice. Donc, partout où on doit se sentir heureux. Voilà quoi.
Non, d'accord. Mais alors, professeur, ces sites agro-industriels de manière simple, qu'est-ce qu'on doit généralement retrouver dans ces sites agro-industriels? Qu'est-ce qu'il faut retrouver?
Je crois qu'il y a un mot que qui a manqué dans votre intervention, c'est le mot rural. C'est situé dans le milieu rural. Et je crois que c'est une bonne chose parce que aujourd'hui, la population rurale chez nous est pratiquement dans les oubliettes. Moi, je sors de la forêt, mais si vous allez à 180 km de mon centre de territoire, qui est déjà enclavé, vous arrivez à 100 km, c'est pire. Donc, si aujourd'hui...
C'est pire, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que si vous allez dans les recoins de ces pays, vous ne croirez pas que vous êtes en RDC. Ce n'est pas possible. Il y a des coins, bon, le gouvernement se bat, c'est vrai, ça va arriver un jour. Mais si vous partez aujourd'hui, par exemple, prenons à Monkoto ou chez moi à Lomé, là, dans les petits villages, mais c'est pas possible. D'abord, pour arriver, vous allez arriver comment? Moi-même, je dirais, j'ai toujours rigolé en disant que j'ai perdu mon billet d'avion. Parce que je vais arriver comment chez moi? Il faut arriver, vous prenez l'avion, disait jusqu'à Lodja, Lodja, il faut compter 250 km. Bon, maintenant, il y a de route, mais il y a un an, il n'y avait rien. Donc, il faut faire 200 km à pied. Et vous comprenez? Et si pour avoir une chemise, il faut faire 250 km, alors qu'à Kinshasa, on a la chemise à côté. Donc, vous voyez, il y a deux pays différents. Et pourtant, nous sommes dans un même pays que nous appelons le Congo.
Et vous pensez que l'implantation du site agro-industriel à travers le pays peut arriver à résoudre ce genre de problème?
Exact. Je dis que c'est une bonne chose, dans ce sens que si nous rappelons de statistiques de la FAO, plus de 70% des Congolais vivent de l'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, le seuil de pauvreté, bon, ça marche avec le gouvernement actuel. Si je suis le compte rendu de Troïka matinal, si on suit ça, on peut imaginer que l'économie marche. Mais je crois que si on développe ces sites agro-industriels d'aluminium rural, ça va améliorer, tapé soit-il, l'insécurité alimentaire, qui est le cheval de bataille de l'actuel gouvernement. Il y aura la création d'emplois, et qui dit création d'emplois veut dire revenus, et ces revenus, les gens vont payer les impôts, et si on paye les impôts, on peut encore commander d'autres produits dans d'autres pays, les produits que nous ne produisons pas ici, on peut les commander, l'État pourra encore avoir un peu plus d'argent pour aménager les routes, construire des écoles, construire des hôpitaux. Donc, ce serait la lutte contre la pauvreté dans les milieux ruraux où il n'y a pas de travaux.
Okay. Et professeur, lorsque on développe ces sites agro-industriels, est-ce que c'est toujours important de penser d'abord aux communautés locales, c'est-à-dire ceux qui vivent dans le coin?
Mais si on ne passe pas aux communautés locales, on va passer à qui?
Oui.
Imaginons qu'on installe ce site ici à Kinshasa. Mais où et qui va travailler? Vous n'allez pas laisser votre chaîne de radio ici pour aller travailler là-bas.
Mais il y a des gens qui craignent que ça peut ravaler à ce que les gens font tous les jours. C'est-à-dire que le site agro-industriel se développe et puis le paysan qui sont habitués à faire leur petit champ ne puisse plus se retrouver.
Oui, ça c'est vrai. Mais il faut que ça soit... que ça profite aux populations rurales. Sinon, ça ne servirait à rien. On déshabillerait Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. C'est pourquoi moi, j'insiste ici le mot rural. Il faut que ça soit une unité de production qui favorise l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. C'est ça. Parce que tout le monde n'est pas appelé à devenir professeur, à devenir ministre, à devenir secrétaire général ou n'importe qui. Mais il faut donner à la population rurale une place de choix dans la société. Et ça, avec des unités pareilles, on valorise, si vous voulez, cette population rurale laissée dans les oubliettes. Donc nous devons nous féliciter.
Voilà, on parle avec le professeur Mutambu Shango de l'importance de l'implantation de sites agro-industriels pour les communautés locales. Vous êtes intéressé par ce sujet, vous voulez en savoir davantage. Nous rappelons le numéro des contacts, appelé au 081 890 63 94.
Lorsque le jour se lève, toutes les provinces se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, revue de la presse quinoise, toutes les infos s'écoutent entre 5 et 9 heures. Le meilleur de l'actualité sportive chaque demi-heure, des reportages qui vous donnent la parole, des infos pratiques et de la musique qui réveille. Lorsque le jour se lève, dès 5 heures, Radio Kapi met le Congo à la une.
Voilà, Professeur Moutamboué est avec nous dans ce studio pour parler, je le disais, de l'importance de l'implantation de cet agro industriel pour les communautés locales. Et Professeur, dites-nous pour les choix des endroits, il faut des sites, il faut des endroits, il faut développer ces sites agro-industriels. C'est aussi important. C'est pas n'importe où à qui il faut implanter ces sites agro-industriels.
Justement, bon, je crois que on ne peut pas installer entre nous ces sites n'importe où à travers le pays. Parce qu'il y a d'abord le problème d'évacuation. On peut très bien produire, mais il faut évacuer. Déjà avec même la production traditionnelle. Bon, nous qui allons à l'intérieur du pays, les gens produisent du café, ils produisent du riz, produisent des cacahuètes. Mais le problème d'évacuation se pose. Maintenant, on est en train de trouver par-ci, par-là, des solutions. Mais je crois que si on doit installer une unité de production telle que celle qu'on est en train de faire ici à Kinshasa et dans le Bandundu, en tout cas, il faut que ce site soit situé à côté du centre de consommation.
Vous venez de citer quelque chose qui a retenu mon attention. Vous avez parlé, par exemple, vous l'appelez du café, du riz, des cacahuètes. Et ça me donne l'idée de vous poser cette question. Dans un site agro-industriel, est-ce qu'il y a deux produits qu'il faut privilégier par rapport à d'autres produits, c'est-à-dire par rapport à tout ce qui se passe dans ces secteurs-là?
Oui, justement, je crois que quand on va installer un site pareil, on doit d'abord étudier la qualité du sol, donc voir quels sont les produits qui sont propices au site. On ne va pas aujourd'hui, par exemple, imaginer à faire du riz irrigué au plateau de Batiké. C'est inconcevable. Mais par contre, si on est à Kinkole et qu'on veut faire du riz irrigué, c'est bon. OK? Donc, avant tout, et je crois que c'est ce que, si je suis le compte-rendu des experts qui passent à la télévision, il y a toujours une étude de faisabilité avant l'installation de ces sites-là. Okay. Sans étude de faisabilité, je crois que le site est voué à l'abandon 2-3 ans après. D'ailleurs, l'expérience nous apprend. Dans les années 1999-2000, tout le monde parlait de Mekaumose. Et je me rappelle, j'étais à l'époque directeur de l'IRAIFT, je suis allé avec les étudiants, j'ai demandé aux agronomes qui étaient là s'ils avaient encore une idée des notions de pédologie. Parce que j'ai trouvé un armada de machines.
Notion de pédologie, c'est-à-dire?
Le sol, l'étude du sol.
D'accord, oui.
Alors, je leur disais, ils me parlaient de ce qui s'est passé à Lubumbashi, et qu'à Lubumbashi, le service national avait eu des résultats extraordinaires. J'ai dit, mais écoutez, Lubumbashi n'est pas Mekaumose. Alors, si vous voulez faire des copies-coller de ce qui s'est passé à Lubumbashi, vous allez échouer. Bon, tout le monde peut-être s'est moqué de moi, mais après,
est-ce
que le résultat obtenu à Lubumbashi était obtenu à Kinshasa? Non. Donc, dans chaque site, on doit songer à faire ce qui est propice. Ça, c'est logique.
Et prenons le cas de la province du Bandundu, on le sait, c'est une province, c'est une grande province où il y a beaucoup de cultures qui se font dans le coin. Et c'est également le cas pour la province du Bas-Congo. Quels sont les produits qui en principe, on peut bien développer lorsqu'on crée un site agro-industriel dans la province du Bandundu du Bas-Congo?
Mais c'est ce que je dis, ça dépend. Si vous êtes dans le Bandundu, Vous voulez aller à Inongo, il ne faut pas aller créer, chercher des plantes ou des types de cultures adaptées à la savane. Non, c'est pas possible. Ou vous voulez aller aujourd'hui, par exemple, faire l'élevage des vaches au lac Maindombe. Mais c'est pas possible. Mais par contre, si vous voulez faire ça, par exemple, du côté des Kwango, mais c'est vrai, vous avez la savane, vous pouvez faire autant de vaches que vous voulez. Donc tout dépend de là où on veut. Ok. Vous même dans les bas Congo, si vous êtes à Patou, mais ne vous amusez pas à faire des vaches comme on les fait à Kolofuma. Les milieux sont différents. Mais par contre, vous pouvez faire du riz facilement à Patou, ce que vous ne pouvez pas faire en Mazangongo. En Mazangongo, par exemple, le culture maraîchère, ça va très bien. Mais vous ne pouvez pas faire ça à Sekebanza. Ce n'est pas possible. Donc, vous voyez, c'est pourquoi l'étude de faisabilité pour des installations de ce type d'unité demande vraiment des études sérieuses et à tous les niveaux. Il ne faut pas seulement les agronomes. Les agronomes vous diront oui, ceci, cela, mais il faut qu'il y ait des économistes qui vous diront oui, vous produisez ça. Voilà, toute la chaîne des valeurs, ça donne autant. Mais il faut aussi avoir des sociologues et des anthropologues. Parce que vous venez installer, par exemple, un site de quoi? Je ne sais pas, l'élevage d'un ngombe quelque part. Les gens qui n'ont jamais vu les vaches tombent comme le bout de cheveux dans la soupe. Mais vous créez tout un problème. Donc il faut qu'il y ait des sociologues, des anthropologues, pour leur faire comprendre l'importance de l'élevage des vaches. Donc tout le monde doit être là. Ce n'est pas un truc d'agronome, de politicien ou d'économiste. Non, tout le monde, même le religieux.
Mais pour ceci, là, je pense à, par exemple, à Kulingongo avec l'entreprise socière de Kulingongo. Ça fait un moment où, à l'époque, l'entreprise achetait le canne à sucre au niveau de communauté locale qui cultivait le canne à sucre. Mais après, et la population commençait à se plaindre du fait que l'entreprise a développé elle-même ses champs du canne à sucre, et c'est qui devenait compliqué pour le paysan du coin de vivre. C'est pas aussi une espèce de menace pour la population locale lorsqu'on crée des sites agro-industriels comme ça.
Oui, mais le problème, c'est que c'est le jeu qui doit être fait par les politiciens.
Oui.
Si les jeux ne sont pas clairs, c'est dommage. Parce que l'homme qui vit avec l'argent, il est roi. Mais c'est celui qui signe le contrat avec, il y a un cahier de charges où on impose à l'industrie de faire telle chose. Mais s'il n'y a pas un compromis au départ, l'industriel, lui, veut exploiter la population et amasser autant de bénéfices qu'il veut.
Donc, c'est-à-dire que c'est bien de planter ces sites agro-industriels, mais il faut également songer à aux communautés locales, surtout à celles qui vivent de ces produits-là.
Oui, mais pour moi, par exemple, bon, heureusement, le gouvernement, quand j'ai suivi même la dernière intervention du ministre délégué aux finances, qui parlait de 17 000 personnes, et je crois que parmi les 17 000, la population des environs doit être privilégiée. Parce que d'abord, c'est leur terre. Je regrette, c'est leur terre, c'est ce qui leur donne à manger, à boire et à payer le minerva de leurs enfants. Donc, si aujourd'hui ils sont négligés, ils vont vivre comment? Donc, il faut trouver une activité alternative. Et l'activité alternative, c'est leur donner des emplois.
Voilà, on va poursuivre avec vous. On a deux auditeurs en ligne. Nous avons Aimé Minako qui nous appelle d'ici en province orientale et Patient Paul qui est à Kinshasa. Aimé, bonjour.
Bonjour Marcel.
On vous écoute, Aimé.
Oui, j'avais deux questions. La première est de savoir, ces villageois-là, quels sont les critères qu'ils doivent remplir pour que ces sites soient implantés dans leur village? La deuxième est de savoir, lorsqu'ils produisent, bon, c'est vrai que dans des villages, il n'y a pas de bonnes routes. Que feront ces villageois pour que ces produits soient évacués? Ce sont là mes deux questions, Marcel.
Merci Aimé Minakou. Depuis ici en province orientale, nous avons à Kinshasa Patient Paul qui est en ligne. Bonjour Patient Paul.
Bonjour Marcel Ngombo ainsi qu'à l'invité.
On vous écoute?
Oui. J'ai peut-être une préoccupation que l'invité peut m'aider. Actuellement, donc, qui détient le monopole de la culture au Congo? Car voyant sur terrain, L'État congolais donc essaie un peu de relancer la culture, mais sans succès. Mais au contraire, donc, avec une partie de gens, il y a une amélioration et ces gens-là donc, parviennent donc, à nourrir toute la République. Si donc l'État trouve qu'avec lui, avec sa politique vraiment donc de l'attitude, donc ça ne marche pas bien, pourquoi ne pas faire confiance aux individus, aux privés, qui émettent du sérieux pour un peu donc venir en aide aux populations vraiment qui sont vulnérables vraiment donc. Et puis donc la deuxième question de savoir donc et de savoir que vive réellement donc l'agriculture agro-industrielle. Merci beaucoup.
Merci, patient Paul. Depuis Kinshasa, on va se rendre à Lubumbashi dans le Katanga et on va accorder la parole à l'ingénieur Christian. Ingénieur Christian, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi. Je suis précisément à Kolwezi, bien que je vis à Lubumbashi, mais je voulais d'abord rectifier quelque chose que monsieur l'invité nous a dit avant que je pose ma question. Parce que je suis fils du Bas-Congo, originaire de Mbanjamongo. Moi, à l'époque, quand on était petit, je me rappelle quand le monsieur a dit qu'à Mbanjamongo, avec les cultures de riz, ça ne marche pas. Mais ça, c'est faux, je le confirme. Parce qu'à l'époque, nous, on a mangé le riz que les Chinois nous produisaient. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore. Et plus précisément à Luma, qui est devenu un endroit un endroit qui a été menacé aux femmes maraîchères. Donc nous on a mangé le riz qu'on produisait là-bas, qui est un riz qui était de qualité et qu'on exportait même à l'étranger. Alors je voulais aussi poser une question parce que vous avez abordé le sujet sans pourtant nous donner le détail sur notre site agro-industriel qui a été créé proche de Kinshasa. Est-ce que ce site n'est que pour la consommation locale ou cela va servir aussi à l'exportation à notre pays, voisins, je ne sais pas quoi, parce qu'il y a depuis un certain temps un flux migratoire à la province ville de Kinshasa. Est-ce que ce site est en mesure de prendre en charge la vie quotidienne de nos frères Kinois ou comment? Voilà un peu ma petite contribution à notre sujet du jour.
Voilà, merci ingénieur Christian, depuis le Lubumbashi dans le Katanga. On va commencer par vous, hein, parce que le professeur est intéressé
Je rigole. Il était petit, mais moi j'étais grand.
Ça, c'est pour parler du riz à Mbanjamongo.
Du riz à Mbanjamongo.
Ah, il a parlé de la cité de Loma.
J'avais même un demi-hectare du riz à Mbanjamongo, mon
cher
ami.
Mais pas la cité de Loma, que je connais aussi.
Exactement, là-bas, à Loma.
À Loma, oui.
J'avais même mal au dos parce que je devais enlever les mauvaises herbes. Mon cher ami, dans les années 76, 75, jusqu'à 79, effectivement, on produisait le riz à Loma.
Et ça marchait?
Ça marchait. J'avais au moins 4, 5, 10 sacs, moi. Et aujourd'hui, vous mangez le riz de Loma.
Mais qu'est-ce qui a fait que ça...
Voilà le problème. Nous parlons de la durabilité. Les Chinois sont venus avec un projet. Ils ont développé le riz irrigué à Loma et à Maouzi. Peut-être que vous ne savez pas, ça, Maouzi aussi. Ce sont des projets des Chinois. Après, c'est parti. C'est fini. C'est tombé dans les oubliettes.
Le sol n'était pas approprié ou...
Non, le riz irrigué, c'est question... On peut même améliorer. Moi, je le fais ici à Kinkole, bêtement. Si on suivait mes conseils, on pouvait même améliorer la production. Les gens de PNR qui travaillent avec moi pourront vous le dire. Donc, c'est ça le problème chez nous. Moi, je parle de la durabilité des projets. Les projets arrivent, ça marche pendant un temps et ça disparaît. OK?
Mais bon. Il a également parlé de Bukangalon. So, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce qui sera produit là-bas, ça sera pour la consommation interne ou bien peut-être pour...
Mais nous devons d'abord dire, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et même la Bible dit, comment pouvez-vous aider les autres si vous ne savez pas vous aider vous-même? Nous-mêmes ici, aujourd'hui, on dit le Congolais mange l'équivalent de 1370 calories, alors que le taux minimum exigé est de 2700. Donc, les gens se demandent même comment le Congolais parvient à tenir le coup en mangeant la moitié de ce qu'ils devaient manger.
Les Congolais sous-alimentés.
Sous-alimentés. Alors que, comme je disais, nous sommes capables de nourrir, selon la FAO, plus de 2,9 milliards de personnes.
Donc la réponse est claire, il faut d'abord servir...
Commencer à manger nous-mêmes.
Commencer d'abord à servir les Congolais, voilà.
Bon.
Alors, professeur, vous voulez commenter par rapport à...
Oui, c'est quoi là. Mais par contre...
Oui.
Alors, quand vous êtes en Bazango, parce que vous parlez de Bazango, quoi que je connais, qui m'a formé, d'ailleurs j'étais assistant de l'ISP Bazango pendant au moins 7 ans, mais quand vous allez vers la grotte où la population développe les cultures maraîchères, ça va très bien parce que il y a la pérennité là-bas, ça aide la population à bien vivre. Mais le riz des Chinois fermé. Alors, l'autre ami qui a parlé de...
Le patient Paul qui a dit pour lui, il fait les constats selon lesquels l'État n'arrive pas à relancer le secteur agricole. Alors que certains privés se débrouillent bien autant que l'État encourage les privés.
Je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que je me bats moi-même comme un loup auprès même auprès de vous ici, j'en ai parlé beaucoup. Dans n'importe quel pays, l'État ne peut pas être un producteur. Mais l'État peut faciliter la vie aux gens. Si vous arrivez dans les pays d'Europe, il y a des banques agricoles, l'État intervient, il y a des subventions pour aider le privé à se développer. Ici chez nous, vous avez une petite unité. Par exemple, chez moi, j'ai une petite unité. Je n'ai pas de moyens. Mais vous allez à la banque, on va vous demander d'avoir... ce que disait même le ministre hier, il faut avoir des papiers, des certificats, tout un tas d'histoires. Donc, des barrières partout. Donc, on est obligé de croiser les bras parce qu'on n'a pas les moyens. Mais si l'État pouvait faciliter aux petits producteurs la vie d'avoir des crédits, s'il y a des subventions, donner ces subventions aux ces petits producteurs, ça marcherait. Mais sommes-nous mûrs pour faire ce genre de choses aussi? Parce que nous crions beaucoup. À l'époque du président Mobutu, on a cédé des plantations, de ceci, de cela.
Avec la banque.
La zélisation et tout. Il y avait même une banque agricole.
Le crédit agricole.
Mais qui ont pris des crédits? C'est nous-mêmes.
On a déploré le fait que les gens présentaient des projets agricoles, mais une fois l'argent perçu, c'était pour autre chose.
Bon, mais alors, l'État a cédé à la population, mais la population qui a mené une vie à divagation.
De la population a également une part de responsabilité, professeur.
Oui, mais c'est ça. Donc, je crois qu'il y a une certaine maturité. Si vraiment il faut que l'État puisse s'aider, aider la population à développer, et là, c'est bon pour l'économie du pays, pour le bien-être de la population, mais il faut que nous soyons aussi nous-mêmes sérieux. Ok, il ne faut pas qu'aujourd'hui l'État vienne, il vous donne l'argent. Demain, cet argent-là, vous allez au bloc, tous les soirs vous êtes au bloc, ou alors vous allez chez Flore à Bon Marché, manger les morceaux de sombo et tout qu'on sort, et vous oubliez de faire ce que vous avez signé comme contrat avec l'État.
On ne se prend pas sans même au sérieux. Professeur, vous avez également cette préoccupation des Méminakou qui appelait, disait en presse orientale, une préoccupation sur laquelle vous avez d'ailleurs évoqué au début de cette émission, sur la parler de critères pour choisir des sites agro-industriels et surtout du problème aussi pour des villageois d'évacuer des produits.
Mais c'est-à-dire, c'est ce que je dis, c'est ce qu'on appelle l'état de faisabilité. C'est l'état de faisabilité. Vous voulez aller, par exemple, chez moi à Lomé, là. Vous voulez faire un site agro-industriel, produire le manioc. Mais c'est un échec. Qui va manger le manioc? Le manioc, chez moi, c'est le truc pour les cochons.
Et là, c'est plutôt...
C'est pour préparer le rotoko. Mais si vous partez là-bas avec l'idée, vous avez fait des études, vous voulez produire du riz, mais c'est une réussite. Donc, le critère, c'est l'étude de faisabilité. Et c'est cette étude que j'ai dit, il ne faut pas seulement avoir des agronomes, mais il faut avoir des sociologues, des anthropologues qui étudient les habitudes alimentaires, des économistes qui vont vous faire les études de chaîne de valeur, et les curés ou les sociologues qui vont voir les habitudes aussi et tout un tas d'histoires. Donc, le critère, il n'y en a pas, mais il faut faire des études sur place.
Voilà, professeur. Merci. On va s'arrêter par là avec cette réponse à cette préoccupation des Méminacs ou qui appelait disons un professeur oriental. Professeur, vous étiez donc notre invité pour parler de l'implantation d'un site agro-industriel. Quelle est son importance pour les communautés locales? C'est un grand plaisir de vous avoir encore une fois dans ce studio. Professeur Mutambwe Shango, nous rappelons que vous êtes spécialiste en développement. Merci d'avoir été des nôtres.
Je vais ajouter quelque chose.
Allez-y, professeur.
C'est-à-dire que quand il y a production, oui. il faut songer à la production de façon globale. On ne peut pas axer seulement pour telle culture. Donc, il faut que ça soit systémique, global. Et j'insiste toujours, comme j'ai dit, pour sauver ce monde, disons, le problème de manque à protéines animales, il faut songer à la production de poissons. C'est là où je vais arrêter.
Voilà. Professeur Mutambwe Shango, spécialiste en développement. Merci beaucoup.
Merci.